Alors, on va partager deux textes sur le thème donc de la fortification dans la grâce. Premier texte, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 1. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. Et un second texte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. La faiblesse est une caractéristique de l'homme. Tout être humain est faible. Nous sommes faibles, c'est un fait. L'être humain est faible. Et notre faiblesse se voit dans toutes les caractéristiques de notre être, dans toutes les dimensions de notre être. On voit notre faiblesse dans notre dimension physique, on voit notre faiblesse dans notre dimension affective, dans notre dimension intellectuelle, dans notre dimension sociale, dans notre dimension spirituelle. La faiblesse, notre faiblesse est partout. Toutes ces dimensions révèlent notre faiblesse. Et comment se manifeste cette faiblesse? Eh bien, de beaucoup de façons différentes. Donc, manque de puissance, manque de volonté, manque de solidité, manque de potentiel, manque de capacité, de bien des façons différentes. La perte de confiance en soi est une manifestation de notre faiblesse. Un complexe d'infériorité est une manifestation de notre faiblesse. Notre inconstance, notre irrégularité, notre manque de fiabilité, la difficulté dans certaines circonstances à se maîtriser, tout ça vient de notre faiblesse. Et pourquoi sommes-nous faibles? La Bible nous l'explique, puisqu'au commencement, vous le savez, Dieu a fait l'homme et la femme à son image. Dieu avait fait l'homme et la femme à son image. Et il avait même dit que cela était très bon. Si Dieu dit que c'est très bon, c'est que c'est très bon. Au départ, c'était très bon. On était une œuvre couronnée. Dans la création, Dieu avait fait de nous, avait fait de l'homme le dominateur sur la terre, le dominateur de toutes choses sur la terre. Il avait fait l'homme à son image, on l'a dit. Il avait fait une alliance avec l'homme. Il y avait une alliance entre Dieu et l'homme. Et le plan de Dieu, c'était de vivre en communion avec nous réellement. Donc, nous n'étions pas faibles. Nous étions faits à l'image de Dieu. Mais ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. L'homme a rompu cette alliance par sa désobéissance. Et à partir du moment où l'homme a désobéi, quelque chose s'est cassé en nous. Dieu a chassé Adam et Ève. Et dans Genèse 3, Dieu parle à l'homme et lui dit « C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture du sol. » Il lui dit aussi « Tu mangeras ton pain au prix de la sueur de ton visage. » Il est en train de lui dire « Désormais, pour toi, tout sera difficile. » Là où il était prévu que tout soit facile, parce que tu m'as désobéi, tout va devenir difficile pour toi. Voilà ce qui explique notre faiblesse. C'est un déséquilibre en nous. Il y a quelque chose qui s'est cassé en nous. Quelque chose a été cassé en l'homme au moment où l'homme a désobéi. Et cette faiblesse nous suit encore aujourd'hui. C'est une conséquence de la chute. En général, quand on parle de faiblesse, on pense à la fragilité. On se fait cette image de faiblesse égale fragilité. Faiblesse, on pense peut-être à un enfant, ou à une personne malade, une personne handicapée, une personne vulnérable. On a cette image-là, enfin, moi en tout cas, quand je pense au mot faiblesse, voilà à quoi je pense. Alors que ce n'est pas seulement ça. Puisqu'on l'a dit, tous les hommes sont faibles. Tous les hommes sont faibles. Même un homme qui mesurerait 2 mètres, qui pèserait 110 kilos de muscles, même celui-là est faible. Goliath était faible, pour parler d'un personnage biblique. Goliath était faible. La faiblesse, c'est vraiment l'état qui nous caractérise depuis la chute. Et on pourrait définir la faiblesse quelque part comme l'état naturel de l'homme qui vit loin de Dieu. Un homme qui vit loin de Dieu est faible, mais il demeure faible. Alors que la présence de Dieu, on va le voir, est une réponse à cette faiblesse. La Bible dit, on l'a lu, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le Seigneur le dit, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et la Bible dit aussi, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La puissance du Seigneur s'accomplit dans notre faiblesse. Je répète, la puissance du Seigneur s'accomplit dans notre faiblesse. On a besoin d'être faible, ou en tout cas, quand nous sommes faibles, c'est alors que le Seigneur nous rend fort. On pourrait imaginer la faiblesse en pensant à un homme faible comme un puzzle à qui manquerait une pièce. Il manquerait une pièce dans ce puzzle. Et cette pièce, c'est Jésus. Vous savez, quand on met la dernière pièce sur le puzzle, des fois, c'est des puzzles de 1000 pièces. Il a beau manquer une pièce, on voit bien que ce n'est pas parfait. On voit bien que ce n'est pas fini, il manque quelque chose. Et même si c'est une toute petite pièce sur 1000, quand on met la dernière pièce, ça donne une vue d'ensemble qui est complètement différente. Ça donne une beauté qui manquait, ça donne une cohérence qui manquait. C'est l'image que je me fais de Jésus qui comble parfaitement ce vide qui est en nous, entre notre faiblesse et la force que nous donne son Saint-Esprit. Il apporte un équilibre, je disais tout à l'heure que la faiblesse est un déséquilibre. Jésus ramène un équilibre qui nous manque une puissance dans notre être entier. Et à l'inverse, je pense que c'est important aussi de dire que la faiblesse n'est pas le péché. La faiblesse, c'est la faiblesse, le péché, c'est le péché. Je dis ça parce que certaines personnes font un amalgame entre la faiblesse et le péché. Pour certaines personnes, être faible, c'est péché. Et péché, c'est être faible. Et ce sont deux choses différentes. D'un côté, on a le péché qui nous sépare de Dieu. De l'autre côté, on a la faiblesse qui nous rapproche de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, la faiblesse nous rapproche de Dieu. Il a dit, on l'a lu, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mais il n'a pas dit « Ma puissance s'accomplit dans le péché ». Il a dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La différence, c'est que le péché a besoin de son pardon. La faiblesse a besoin de sa grâce. Notre péché a besoin de son pardon. Notre faiblesse a besoin de sa grâce. Notre péché a besoin de notre repentance. Notre faiblesse a besoin de notre consécration pour Dieu, notre intimité avec Dieu. Nous avons lu tout à l'heure dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 1, je le relis, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. » C'est le titre que j'ai donné à ce message. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. » Nous avons parfaitement le droit d'être faibles. Il ne faut pas culpabiliser d'être faibles. Parce que nous sommes hommes, nous sommes humains, nous sommes femmes, nous sommes hommes, nous sommes humains, nous sommes faibles. Mais parce que nous sommes faibles, c'est alors que le Seigneur va nous visiter, c'est alors que le Seigneur va nous fortifier. Toute la Bible nous parle d'hommes et de femmes qui sont faibles. Des hommes et des femmes que le Seigneur va relever, que le Seigneur va transformer, que le Seigneur va réhabiliter, va reconstruire. Il y en a tout le long de la Bible, du début jusqu'à la fin. Je pense à Moïse, je pense à Gédéon, je pense à David, je pense à Job, je pense à Pierre, je pense à la femme à la perte de sang, je pense à la femme samaritaine, je pense à Zachée, et il y en aurait plein, plein, plein d'autres. Des hommes et des femmes que Dieu a reconstruits, que le Seigneur a visités, et dans leur faiblesse les a rendus forts. Et il y a des points communs entre ces personnages bibliques et nous-mêmes. Il y a un lien entre ces personnages bibliques et nous-mêmes. Et c'est l'expérience que nous avons vécue avec le Seigneur qui nous le dit. J'ai identifié, moi, 4 étapes importantes dans la reconstruction d'un homme, d'une femme que Jésus vient rencontrer dans sa faiblesse. La première étape, c'est que, justement, il nous révèle cette faiblesse. Parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Il nous ouvre les yeux sur notre propre faiblesse. La deuxième étape, c'est qu'il nous donne une nouvelle identité. Il nous donne une nouvelle identité. La troisième étape, il nous équipe de sa présence et il nous équipe de sa parole. Et dernière étape, il agit. une fois que les trois premières étapes sont passées, il fait de nous des instruments entre ses mains, il agit à travers nous pour sa gloire. Donc je voudrais ce soir, à travers l'exemple de l'apôtre Paul, illustrer ces quatre étapes qui, encore une fois, sont la grâce permanente que le Seigneur nous a réservée et cette grâce qui change nos vies encore aujourd'hui. La première étape, c'est, je disais, Jésus commence par nous révéler notre insuffisance, il commence par nous révéler notre faiblesse, il nous ouvre les yeux. Alors, je disais qu'on va parler de l'apôtre Paul. S'il y en a bien un qui a expérimenté que Jésus peut ouvrir nos yeux, c'est bien Saul de Tarse. Au sens propre comme au sens figuré, Jésus lui a ouvert les yeux. Et c'est donc un très bon exemple, Saul, du fait que l'on peut être très fort en apparence, une personne solide, une personne forte, mais qu'intérieurement, on peut être très faible. Alors Saul de Tarse, avant d'être Paul, il était Saul, il était hébreu, issu de la tribu de Benjamin, il avait des parents qui étaient pharisiens, lui-même était pharisien par la suite, et ses parents lui avaient permis de recevoir une éducation et un enseignement poussé. Donc il avait été enseigné sur les Écritures qu'il maîtrisait, il connaissait parfaitement la loi de Moïse, il connaissait parfaitement l'histoire du peuple juif, il connaissait les prophètes, il connaissait les psaumes, il connaissait tout ça, et il a poussé sa formation jusqu'à un certain point, même jusqu'à devenir quelque chose un peu comme avocat. Donc Saul de Tarse, c'était quelqu'un de réputé pour être instruit, quelqu'un qui était vraiment cultivé pour tout ce qui concernait la parole de Dieu. Tellement qu'il aurait parfaitement eu le profil pour intégrer le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, c'était la cour suprême juive qui traitait notamment des questions afférentes à la religion. Mais Saul, dans son parcours, à un moment donné, il a pris un mauvais tournant. Il a pris une mauvaise pente. Si Saul vivait de nos jours, on dirait de lui qu'il s'est radicalisé. On dirait de lui qu'il s'est radicalisé parce que, à un moment donné, dans sa vie, il y a eu un tournant et Saul, au-delà d'être un religieux, est devenu un terroriste. Il est devenu un terroriste religieux. Il a pourchassé les premiers chrétiens, il les a massacrés, ou en tout cas, il a toléré leur massacre. Il a encouragé la lapidation de disciples comme Étienne. La parole dit qu'il ravageait l'Église. C'est violent, hein ? Il ravageait l'Église, il harcelait des hommes, il harcelait des femmes, il harcelait des familles entières. La parole dit qu'il cherchait à détruire l'Église. Voilà quel était son projet, détruire l'Église. Il cherchait à détruire l'Église. Donc cet homme qui symbolisait en apparence l'autorité, la puissance, la force, l'instruction, c'est tout ce qu'il symbolisait aux yeux des hommes, c'est comme ça qu'il était réputé, c'est comme ça qu'il était vu. Devant Dieu, c'était différent. Cet homme, devant Dieu, intérieurement, était faible. Devant Dieu, Saul de Tarse, le persécuteur, c'était un homme soumis à Satan, c'était un homme faible, c'était un homme lâche, c'était un homme ignorant. Et le problème de Paul, c'était certainement qu'il était probablement trop orgueilleux pour se rendre compte de qui il était, de ce qu'il faisait réellement. Parce que probablement que Saul de Tarse pensait servir Dieu en faisant ce qu'il faisait. Et Saul va rencontrer Jésus à un moment de sa vie où certainement il n'y s'y attend pas, puisqu'il part à Damas persécuter d'autres chrétiens, comme si ça ne suffisait pas de persécuter les chrétiens de Jérusalem. Donc il partait à Damas persécuter ceux de Damas. Et sur la route qui le mène à Damas, vous le savez, donc il va rencontrer Jésus. Et quand il se retrouve face à Jésus, le livre des Actes au chapitre 9, verset 6, nous dit « Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Tremblant et saisi d'effroi. Le grand Saul de Tarse, le persécuteur, celui qui pourchassait les chrétiens, tremblant et saisi d'effroi devant Jésus. Et il lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Jésus n'a eu besoin que d'une question et une parole pour percer l'armure de Saul de Tarse. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Deux phrases. En deux phrases, Jésus a percé l'armure de Saul de Tarse. En deux phrases, il a ouvert les yeux du cœur de Saul de Tarse, qui s'est rendu compte de qui il était réellement. Cet homme qui était réputé pour sa force, son autorité, sa méchanceté, était tremblant et saisi d'effroi. Vous savez ce qui va se passer ? Il va obéir immédiatement, il va immédiatement se soumettre au Seigneur Jésus. Il va continuer sa route jusqu'à Damas. En ayant perdu la vue, Jésus avait ouvert les yeux de son cœur, mais il avait fermé ses yeux physiques. Saul va partir à Damas, vous connaissez l'histoire, des écailles vont tomber de ses yeux, il va recouvrer la vue. C'était une manifestation visible de sa nouvelle naissance, mais la vraie nouvelle naissance de Saul, c'était sur le chemin de Damas, quand Jésus a ouvert les yeux de son cœur pour lui faire connaître et pour lui faire comprendre sa faiblesse. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 9, Paul va dire, 1 Corinthiens 15, 9, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Voilà ce que fait la grâce de Dieu. Elle rend clairvoyant un homme qui était faible et qui est devenu fort. Ici, Paul lui-même reconnaît ses limites, il reconnaît ses faiblesses, il reconnaît ses erreurs passées, mais surtout, il reconnaît l'œuvre de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Je reconnais l'œuvre de la grâce de Dieu dans ma vie. Et pourtant, encore une fois, je suis convaincu que si on avait demandé à Saul de Tarse, avant qu'il rencontre Jésus, est-ce qu'en pourchassant les chrétiens, tu penses servir Dieu ? Je suis convaincu que ce Saul de Tarse aurait dit « Oui, je le fais pour Dieu. En pourchassant les chrétiens, je sers Dieu. » Il était aveuglé, il vivait dans l'erreur, et ça nous amène aussi à nous poser la question, toute proportion gardée bien sûr, puisque nous ne sommes pas des terroristes religieux, mais est-ce que nous servons Dieu comme il le veut ? Quand nous le servons, est-ce que nous sommes toujours en phase avec ce qu'il attend de nous ? Est-ce que nous faisons vraiment sa volonté dans notre service pour lui ? C'est important de se poser ces questions. Nous sommes tous appelés un jour à rencontrer Jésus et nous sommes tous appelés un jour à ce qu'il nous ouvre les yeux sur qui nous sommes réellement, à nous ouvrir les yeux sur notre insuffisance, sur notre faiblesse. Et c'est une véritable grâce que le Seigneur nous permette de comprendre vraiment qui nous sommes. Parfois on pense être une telle personne, mais quand Jésus nous ouvre les yeux, on comprend qu'en fait on est une toute autre personne. Et nous avons besoin de cette grâce particulière parce que nous sommes faibles. Nous ne savons pas toujours comment nous sommes perçus. Comment est-ce que nous faisons impacter les autres ? Parfois nous pensons faire bien, mais en faisant le bien, nous faisons le mal. Demandons à Jésus de nous ouvrir les yeux. C'est important que nous ayons les yeux ouverts sur notre faiblesse et que nous la comprenions. La deuxième étape, c'est que Jésus nous donne une nouvelle identité. Alors bien sûr, Saul a changé de prénom, vous le savez, il s'appelait Saul et il va devenir Paul. Il va devenir Paul, d'ailleurs, c'est un sacré clin d'œil puisque Paul... ou Paulos en grec, vous le savez, signifie petit ou faible. Ça peut vouloir dire les deux. Donc, celui qui avant était fort, mais faible intérieurement, est devenu aujourd'hui faible en tant qu'apôtre, mais fort à l'intérieur. Mais alors qu'il est devenu fort à l'intérieur, maintenant on l'appelle faible ou petit. C'est vraiment très particulier ce que le Seigneur peut nous réserver comme surprise. Mais la véritable transformation de Saul en Paul, elle n'est pas dans son prénom. Elle n'est pas dans son prénom. Elle est dans l'appel de Dieu sur sa vie. Saul était persécuteur. Paul est serviteur. Saul était terroriste. Paul est apôtre. Il est messager de Dieu. Voilà la nouvelle identité que lui a donnée Jésus. Il est un messager de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Il est un apôtre. Donc son identité... Sa nouvelle identité n'est plus liée à son passé, mais elle est liée à l'appel présent de Dieu sur sa vie. Et regardez, vous allez voir, c'est très intéressant comment Paul lui-même se présente à ses lecteurs. Donc c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Il se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Waouh ! Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais C'est une sacrée phrase de présentation. Hein. Parfois, on est amené à se présenter. Bonjour, présentez-vous, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Jean, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Oh! Non? Ça claque. Enfin, moi, je trouve que... Et c'est Paul, hein? C'est Paul qui s'est présenté comme ça. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on serait censé faire? Dire qui nous sommes et ce que nous faisons. Est-ce que nous ne sommes pas serviteurs du Seigneur Jésus par la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas juste ce que nous sommes? Donc, quand on repense à l'histoire de Saul devenu Paul, on voit bien l'œuvre de la grâce de Dieu dans sa vie, parce que c'est un homme qui ne méritait pas grand-chose à part d'être jugé pour ses actes. Voilà ce qu'il aurait mérité aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'était différent. Dieu ne l'a pas appelé par rapport à son passé. Dieu l'a appelé par rapport à ce qu'il voulait faire de lui. Il l'a appelé par rapport à ce que Dieu savait, ce qu'il allait pouvoir faire avec, à travers sa grâce dans la vie de Paul et comment Paul pouvait devenir un instrument entre ses mains pour porter son évangile, pour apporter sa parole. Et le Seigneur ne s'est pas trompé. Parce qu'à travers un meurtrier, à travers un ex-terroriste, le Seigneur a béni, j'ai envie de dire, des millions et des millions de personnes depuis 2000 ans. Les écrits de Paul, encore aujourd'hui, sont une bénédiction pour les lecteurs de la Bible. On parle là d'un ancien terroriste. Un gars qui, au nom de Dieu, tuait, massacrait, pourchassait des chrétiens. Voilà qui il était. Alors Paul a écrit, alors on va lire beaucoup ce soir, hein. Je ne sais pas si vous aimez la parole de Dieu, mais ce soir, vous allez être servi. Donc, Paul a écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y en a bien un qui sait ce que veut dire être une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, c'est bien Paul. Qui était Saul, le terroriste, et qui est devenu Paul, l'apôtre de Dieu. Et il avait vécu personnellement, et il avait compris que ce qui le définissait à présent, quand il écrit ce texte-là, ce n'est plus son passé, mais c'est l'appel de Dieu sur sa vie. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est présent ici ce soir ou qui écoute ce message, ce que j'ai reçu, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour lui ou pour elle, c'est que ta valeur n'est pas basée sur ton passé. Ta valeur n'est pas basée sur tes fautes passées. Ta valeur n'est pas basée sur tes erreurs. Ta valeur n'est pas basée sur les mauvaises choses que tu as fait par le passé. Ta valeur présente, elle est basée sur l'appel de Dieu pour ta vie. L'appel de Dieu dans ta vie. La troisième étape, c'est que Jésus nous équipe par sa présence et par sa parole. Donc maintenant que Jésus nous a ouvert les yeux sur notre faiblesse, il nous a donné une nouvelle identité. Là, il va nous équiper. Il va nous équiper, comment ? Par sa présence, par sa parole. Parce que la présence et la parole de Jésus font toute la différence. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs avec Paul. Quel était le projet du Seigneur pour Paul ? C'était qu'il parcourt la terre, qu'il parcourt le monde, annoncer l'évangile, faire de toutes les nations des disciples, enseigner, parler de Jésus partout où il allait. Et la particularité de Paul, à la différence des disciples qui ont connu Jésus, qui ont vécu avec Jésus, c'est que Paul n'avait pas vécu avec Jésus. Paul n'avait pas partagé le ministère de Jésus. Et comment Jésus l'a-t-il équipé ? Paul nous le dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 11 et 12. Galates 1, versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul a appris l'évangile par la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui a équipé Paul pour ses voyages missionnaires, c'est Jésus-Christ lui-même par son Saint-Esprit. Donc, que nous dit Paul ? Il y a deux façons de recevoir la parole de Dieu, de recevoir l'évangile, par notre intelligence et par le Saint-Esprit. Ce sont deux façons, deux approches complètement différentes. Et la force de Paul, la force qu'avait Paul, ne lui venait pas de lui, c'est ce qu'on comprend ici quand on lit ce texte, mais elle venait du Seigneur, ce qui est complètement différent. Et nous pouvons nous aussi demander au Saint-Esprit de nous révéler la parole de Dieu. Ne pas nous contenter de comprendre la parole de Dieu par notre intelligence, avec notre cerveau à nous, mais nous pouvons demander au Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit. Nous pouvons prier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, nous pouvons le prier. Nous pouvons prier le Saint-Esprit, lui demander, Saint-Esprit, révèle-moi la parole de Dieu. Et c'est certain que la présence et la parole de Jésus porteront beaucoup plus de fruits en nous que notre propre intelligence. Est-ce que Paul aurait pu faire les voyages qu'il a fait, les missions qu'il a fait? Est-ce qu'il aurait pu prêcher comme il a prêché, évangéliser comme il a fait? Est-ce qu'il aurait pu supporter tout ce qu'il a eu à supporter sans la présence du Saint-Esprit? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça aurait été possible. Et dans le livre des Actes, au chapitre 18 et au verset 9 et 10, le texte nous montre d'où Paul tenait sa persévérance et sa foi. Donc, Actes 18, 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, parce que Paul craignait. Donc, le Saint-Esprit lui dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Certainement que Paul voulait se taire. Ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà ce que le Saint-Esprit dit à Paul. Donc Paul, lui, il a connu toutes les épreuves possibles dans ses voyages missionnaires. Il a connu la faim, il a connu le froid, il a connu la tempête, les naufrages, il a connu les coups, les maltraitances, les humiliations, la maladie, il a connu la prison. Vraiment, le Seigneur n'a rien épargné à Paul, mais rien du tout. Il a tout connu. Mais le Seigneur l'avait équipé de sa présence et de sa parole. Il lui avait révélé l'évangile, il lui avait dit « Ne crains point, je suis avec toi ». Et Jésus nous a dit à nous aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit aussi, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc nous aussi, nous pouvons compter sur la présence et la parole de Jésus dans nos vies, jour après jour. Nous pouvons compter sur la présence de son Saint-Esprit auprès de nous, jour après jour. C'est un avantage. Jésus a appelé ça un avantage. L'avantage, c'est ce qui nous donne un truc en plus par rapport aux autres. C'est la présence du Saint-Esprit qui, de faible, nous fait devenir fort. Paul, je recite Paul, donc dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je retiens, dans ce verset, je retiens la force. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force que nous a donné le Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité, de faiblesse, mais un esprit de force. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il transforme notre faiblesse en force. Et la dernière étape, donc, Jésus agit. À présent que nous sommes prêts, qu'il nous a préparés par sa grâce, nous qui étions faibles, il nous a préparés. Désormais, Jésus peut agir dans nos vies. Justement, les voyages missionnaires de Paul, quand on les lit, ils nous révèlent bien que ils ne réussissent pas par la puissance de Paul. On voit bien que Paul est faible. Ils ne réussissent pas parce que Paul a des qualités physiques ou des qualités morales au-dessus de la moyenne. Mais vraiment, tout le long des voyages missionnaires de Paul, la présence du Saint-Esprit, elle est palpable, elle est réelle, elle est continue. Paul y souffrait, Paul il était emprisonné. Mais pendant ce temps-là, quand on lit les voyages de Paul, quand on lit les lettres de Paul, on comprend que l'évangile était annoncé partout. Même là où il était emprisonné, même là où il prenait des coups, l'évangile était annoncé partout et l'évangile triomphait. Et il y avait des milliers et des milliers de personnes qui se repentaient et qui donnaient leur cœur à Jésus. Alors que lui, il était en prison, alors que lui était humilié, alors que lui prenait des coups, alors qu'il était maltraité, chassé des villes et des villages. Pendant ce temps-là, le royaume de Dieu avançait. Dans 2 Corinthiens 4, verset 7, Paul dit, 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà pourquoi Paul est un exemple parfait que lorsque la grâce de Dieu nous accompagne, elle transforme notre faiblesse en témoignage. Elle démontre que notre faiblesse est une occasion de révéler la grandeur de Dieu. La vie missionnaire de Paul, ce n'est pas un succès à cause de Paul. C'est un succès à cause de Dieu. Et la vie missionnaire de Paul a démontré cela, mais elle a démontré aussi autre chose. Je parlais tout à l'heure du fait que quand il était sur le chemin de Damas, Paul s'est immédiatement soumis à Jésus. Et il a également par la suite souligné combien il était serviteur de Jésus, combien il était obéissant envers le Seigneur. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, au verset 1, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre ». Donc il nous confirme son rang de serviteur. Il est soumis au Seigneur Jésus. Il confirme qu'il a été appelé à être apôtre. Et un peu plus loin, au verset 5, Romains 1, verset 5, il dit « Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens ». Donc c'est vrai que, comme Paul, on est appelé de faible à devenir fort par la grâce de Dieu, mais ça passe aussi par notre obéissance. Paul nous a donné cet exemple d'obéissance. C'est un exemple que nous devons suivre, faire preuve d'humilité, nous effacer derrière Jésus, laisser Jésus croître en nous. Un dernier mot pour conclure. Dans la Bible, il n'y a pas de commandement à être faible. La Bible ne nous appelle pas à être faible, même si nous le sommes, c'est vrai, c'est le constat. Nous sommes faibles. En revanche, la Bible nous encourage, la Bible nous exhorte à nous fortifier, à devenir fort, à nous entraîner, à devenir ferme, à prendre courage. Voilà à quoi nous exhorte la parole de Dieu. Et comment, non pas en nous confiant sur nous-mêmes, sur nos capacités, mais en nous confiant sur la grâce de Dieu, en nous confiant sur son Fils Jésus, en nous confiant sur sa parole, en nous confiant en son Saint-Esprit. Et je termine avec ce verset qu'on avait lu tout à l'heure en introduction, 2 Timothée 2, 1. « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu de gloire, oui, je te rends grâce car dans ma faiblesse, Seigneur, je sais que je peux compter sur ta grâce. Merci d'avoir un jour ouvert mes yeux sur cette faiblesse. Merci, Seigneur, de m'avoir donné une nouvelle identité. Merci de m'accompagner chaque jour par ta présence, par ta parole, Seigneur. Merci d'agir encore puissamment dans ma vie. Oui, Seigneur, nous tous qui entendons ta parole, Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur, dans laquelle nous pouvons nous fortifier. Ô Seigneur, que ta bonne main soit encore sur nous, Seigneur, afin que nous soyons des témoins de ta grâce, là où tu nous envoies, que ce soit dans des occasions diverses ou variées, Seigneur, quel que soit l'endroit, que nous puissions témoigner de ta grandeur autour de nous, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen.